C'est Noël en avance chez MacG, nous avons eu l'occasion de tester tout un tas de Mac pour cette fin d'année. Le plus intrigant était sans doute le nouveau Mac Mini M4, l'ordinateur du bureau d'entrée de gamme d'Apple ayant gagné un design compact plus petit tout en étant plus puissant que son prédécesseur. Ce n'est pas tout, et Apple a également lancé deux nouveaux MacBook Pro, embarquant les grosses puces M4 Pro et M4 Max. Ces machines ont pour avantage de disposer d'une nouvelle option avec un écran nano-texturé, diminuant les reflets sans trop dégrader la qualité d'image. Enfin, l'iMac est passé à la puce M4, un gain de puissance sur lequel ne cracheront pas ceux qui cherchaient une machine tout en un. Que valent ces nouveaux Mac et ces nouvelles puces? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Florian, rédacteur en chef de Mac Génération, qui a testé les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Salut Florian.
Bonjour.
Et je suis également avec Pierre, qui a de son côté passé au crible le dernier Mac Mini et son tout nouveau design. Salut Pierre.
Salut Félix, salut Florian.
Alors Florian, tu t'es fait plaisir la semaine dernière en testant pas moins de 4 configurations différentes de MacBook Pro. Le modèle M3 n'est pourtant pas si vieux, étant donné qu'il est sorti il y a environ un an. Qu'est-ce qui change cette année ?
Qui change, c'est qu'on, alors il y a eu un renouvellement qui est assez saisonnier, qui sera intervenu un petit peu de manière naturelle. Mais il y a deux choses intéressantes, c'est que de manière globale, c'est une gamme, donc là je parle des 14 et des 16, qui est peut-être plus équilibrée au niveau des performances des puces respectives. Mmh. Et qui est plus cohérente dans la position des machines entre elles. Ouais. Donc on reviendra sur tout ça un peu plus tard, mais on a évidemment la nouvelle génération de puces qui avait commencé sur l'iPad Pro avec le M4. Là, elle a été déclinée avec les Pro et les Max. On a, dans les choses bien, on a plus de RAM à chaque fois. Au lieu d'avoir 18 gigas, on a 24, et les machines qui avaient 36 gigas en ont 48. Donc à chaque fois, c'est quand même assez significatif. La caméra fait un peu plus de choses. L'autonomie n'en pâtit pas. Elle augmente même, d'après les chiffres d'Apple, le test. On n'a pas eu le temps de faire vraiment beaucoup de tests d'autonomie parce que ça devient trop long même à faire. Donc on n'a pas eu forcément on n'a pas battu un record, mais on a toujours un très bon chiffre. Et puis après il y a des choses comme on passe au Thunderbolt 5 et on a cette option nano-texturée pour tous les écrans. C'est pas réservé aux pros, c'est plutôt bien. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que les prix ont baissé. On avait vu sur les 14 pouces, les prix ont baissé de 100€ et de 200€ sur le modèle Max. Et sur les 16 pouces, les prix ont baissé de 100€ sur les M4 Pro et de 150€ sur les M4 Max. Donc entre 100 et 200€, c'est pas mal comme gain.
Ok. Et l'entrée de gamme, du coup, il est mieux ? J'ai vu qu'ils avaient monté la RAM.
Oui, alors voilà, c'était un peu c'est la critique qui avait été faite sur le MacBook Pro 14 pouces qui était apparu l'année dernière. Mmh. Il avait remplacé son équivalent, disons, Intel, avec la Touch Bar et tout. Donc Apple avait été arrivé avec ce MacBook Pro 14 pouces. On se dit, ouais, bien, voilà, on a une entrée de gamme en M3 à l'époque. Mais il y avait 8 gigas de RAM. Alors que tous les autres les pros en avaient beaucoup plus. Mmh. Et on avait moins de ports de connexion, ça je l'ai pas aussi cité. On avait 2 ports au lieu de 3. Ouais. Ça, à la limite, bon. Mais disons qu'on avait une gamme on avait un MacBook Pro 14 pouces M3 qui était un peu un pied dans la gamme MacBook Air pour certaines caractéristiques, un pied dans la gamme MacBook Pro et qui se revendiquait de machine pro. Donc on avait ce côté un peu déséquilibré. Mmh. Là, c'est devenu véritablement un MacBook Pro. MacBook Pro. Ouais. Il reprend un peu l'essentiel des caractéristiques de ces modèles, de ces frères un peu plus costauds. Au niveau de la connectique, au niveau de la RAM, on est passé de 8 à 16, donc là c'est bien. Mmh. Et puis le petit détail, alors ça c'est très anecdotique, mais il a droit au coloris noir sidéral, qui est superbe, mais qui était réservé là aussi aux autres modèles pro. Donc ça faisait encore un truc, on se disait, bah tiens, même sur la couleur, le pauvre vieux, ils l'ont mis un peu à l'écart de la gamme pro. Il y a un truc qu'ils lui en veulent. Donc là, voilà, on a une gamme pro qui est cohérente par rapport à plus cohérente que ce qu'on avait l'année dernière.
On n'en a pas parlé d'ailleurs après, mais le coloris noir sidéral, qu'est-ce que tu en penses? Il est bien,
ça prend. Oui, alors il remplace, donc on a plus de, sur les modèles pro, on a plus de gris sidéral, on a le noir sidéral qui n'est pas comme le noir minuit des MacBook Air. Bref, c'est les noirs et les gris d'Apple qui sont tous différents entre eux. c'est vraiment une... Alors, bon, les goûts et les couleurs, mais c'est vraiment une super couleur. Ouais. Ça vraiment donne un cachet à ces machines. Ça leur donne un côté assez... ça fait un peu Batman, quoi. Il y a ce côté noir. Et puis, un traitement, c'est difficile à exprimer, mais il faut le voir. Mais il y a un côté assez brut sur ce noir qui est vraiment très sympa. Mmh. Et surtout, c'est un truc qui est quand même pas mal. Les problèmes qu'on avait avec les empreintes de doigts, enfin, dans mon cas, j'ai pas les doigts qui marquent spécialement, mais j'ai pas eu de problème. C'est plutôt une couleur qui accroche pas les empreintes. Ouais. Alors que sur le premier MacBook Air qui avait inauguré un coloris un peu comme ça sombre, mais c'était le noir minuit, mais c'était une catastrophe. Ouais, c'était vraiment une très belle couleur, mais on prenait le portable au bout d'un quart d'heure, c'était sale, quoi. Pour dire la chose, c'était dégueulasse, quoi. Très belle couleur, mais voilà. Ouais. Et là, ils ont l'air d'avoir amélioré un petit peu les choses et on a quelque chose qui garde sa, qui garde son côté très sympa. Ouais,
je me demande comment ça va tenir dans le temps, ça. Si tu le frottes, suffit que tu le...
Oui, bah après, il y a toujours, quand on le voit avec les portables, quand on est dessous des gens comme moi qui gardent les portables assez longtemps, on voit, il y a toujours des moments où le métal, il y a une sorte d'usure, ça brille un peu, c'est un peu comme les vêtements, où des fois ça brille. Bah là, l'avenir le dira, mais disons que là, au moins, c'est réussi, ça fait vraiment une belle machine.
Comme sur les touches du clavier de ton MacBook Pro, c'est ça?
Oui. Alors, je dois quand même avoir quelque chose au niveau des doigts parce que j'ai 3 touches, il n'y a plus de 2 touches.
Alors, très franchement, je ne pense pas parce qu'en fait, ma copine a un MacBook de la même époque, 2016-2017. Ouais. Et même chose, elle a quelques touches où le revêtement est complètement parti.
Voilà, ça fait en gros, ça fait une tache blanche au niveau de la lettre. Donc, bon, après, l'habitude fait qu'on s'en aperçoit, on sait où est la lettre, mais voilà, les 3 touches comme ça où j'ai un gros point blanc au niveau de la
lettre. Parce que c'est bizarre, ça tombe vraiment que sur 3 touches particulières.
Oui, voilà.
Elle aussi.
Ah ouais, oui, voilà.
Okay. Non, c'est pas sur toutes les touches.
Ah ouais, il y a un truc. Elles ont été faites par un sous-traitant différent.
Pierre, de ton côté, tu as testé le Mac Mini M4 qui inaugure un design beaucoup plus compact. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'emplacement du nouveau bouton d'alimentation, ça t'a gêné au quotidien?
Alors, bon, on va parler un peu du design. Alors, sur le coup, c'est très bien, hein, c'est tout petit.
Ouais.
C'est vraiment impressionnant quand on le prend en main la première fois. Quand tu dois le montrer à quelqu'un, vraiment, c'est... Ah ouais, tu vois, c'est un ordinateur Texica, oui, ok. C'est un peu plus gros qu'un Apple TV, mais c'est vraiment très compact. Sauf qu'en vrai, pour moi, ça change pas grand-chose, en fait. Parce que le Mac Mini précédent, moi j'ai un M1 sur mon bureau, ça prend déjà pas beaucoup de place. Ça prend un peu plus de surface, mais voilà. Et même si on remonte il y a 15 ans, enfin il y a 20 ans même, avec le premier Mac Mini, c'est pas beaucoup plus gros. La seule chose, c'est que le Mac Mini de l'époque, il avait une grosse alimentation.
Ouais.
Donc sur un bureau, en fait, ça change pas grand chose, mais ça reste un tour de force. Puis on va pouvoir répondre aux gens qui nous expliquaient que les NUC d'Intel, qui étaient les mini PC que la marque vendait et qu'ils ont abandonné, ils expliquaient regardez, c'est plus petit qu'un Mac Mini. Maintenant c'est plus du tout le cas, ça fait à peu près la même taille. Et dans un NUC, en fait, en plus, t'as été même chose, c'est comme sur les premiers Mac Mini. En fait, t'avais un gros bloc d'alimentation type PC portable à côté parce que l'alimentation était pas dedans. Donc voilà, ici c'est tout petit, c'est joli, il y a que de l'argenté, il y a pas de gris sidéral cette année. Et alors tu demandais pour le bouton. Alors pendant les tests, franchement, ça m'a gêné, mais pour un truc très bête, c'est que j'ai testé 2 Mac Mini, j'ai qu'un seul écran pour mes tests, et donc j'ai dû souvent éteindre et allumer les Mac. Et en fait, le bouton en dessous, tu peux pas glisser ton doigt en dessous, ça ne passe pas, parce qu'il est vraiment très près du bord, donc faut soulever la machine. Et 2, il y a pas du tout d'indication pour savoir où il est. Donc il faut le retenir, mais il n'y a pas d'indication visuelle nulle part, donc il faut le soulever.
Et toi, tu es quelqu'un qui éteint son Mac? Parce qu'il y a des lecteurs comme ça dans les rédactions qui disaient, oui, mais moi j'ai éteint mon Mac littéralement tous les soirs parce qu'il y a la question de la conso ou d'autres critères.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, dans les tests, ça m'a vraiment embêté. À l'usage, en vrai... Non, parce que là, j'ai un Mac Mini, M1, sur mon bureau. Franchement, je le pousse, je presse le bouton une ou deux fois par an, parce que en gros, j'éteins l'ordinateur quand je pars en vacances.
Ouais.
Bon, voilà. Le reste du temps, je le mets en veille, parce que la consommation en veille, elle est suffisamment faible pour ne pas m'inquiéter de ça. Et sur le Mac Mini M4, c'est encore pire. La consommation en veille, c'est très faible. Et même la consommation du Mac Mini M4 éteint, parce qu'un ordinateur éteint consomme un tout petit peu, toujours. Ça consomme à peu près autant que la LED de la multiprise sur laquelle vous allez le mettre, quoi. Donc bon.
D'accord.
Et si tu as des périphériques branchés, mettons que tu aies mis un hub.
Certains se mettent en veille, pas d'autres. Ça, c'est un problème. Ouais. Voilà, si on branche un disque dur ou un SSD externe, J'aurais tendance à dire qu'il faut l'éteindre, parce que là, moi, j'ai un exemple très bête, mais j'utilise un SSD externe assez rapide qu'on avait testé pour les données. C'est un modèle Thunderbolt 4, USB 4, machin. Il consomme plus que le Mac, de base. Voilà. Donc, juste une fois branché, la consommation du Mac est multipliée par 4 au repos, juste en branchant le SSD. Donc, à ce moment-là, vaut mieux l'éteindre si on a beaucoup de choses branchées, mais si on a, voilà, le reste du temps, c'est si on a un clavier, une souris sans fil, la consommation en veille, c'est extrêmement faible. Les seuls moments, en fait, où on risque de presser le bouton, c'est au moment de l'installation, parce que, par exemple, quand on installe Touch ID sur le clavier, il faut presser le bouton physiquement. Bon, j'aurais préféré un bouton sur le dessus. Alors, voilà, Florian va me dire, en plus, t'en as eu un, je pense, il y avait déjà un bouton capacitif sur le dessus du Mac il y a 25 ans avec le cube. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont allés mettre leur truc là en dessous? Ils auraient pu mettre un joli bouton transparent, ils l'ont fait sur les nouvelles boîtes d'iPod, enfin voilà. Mais non, bon.
Alors moi j'aime bien les boutons maintenant parce que je vieillis, mais j'aime bien le... Je re-aime bien les boutons, les vrais boutons, voilà, physiques, qui c'est cliquent. Vrai. Que d'avoir juste des trucs invisibles et faut toucher des surfaces. Mais bon, ça c'est
je pense
une question.
Que, ouais, moi ici, de temps en temps, je dois presser le bouton parce que pour passer dans certains modes de sécurité de macOS, notamment, on doit presser le bouton. Mais normalement, un utilisateur normal ne veut pas aller jouer avec ça de façon régulière. Donc, a priori, que le bouton soit en dessous ou déporté ou sur le clavier, ça change pas vraiment. On l'utilise normalement pas.
Ouais. Florian, le Mac Mini, il a perdu du poids grâce à l'abandon des puces Intel. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres Macs subir un tel redesign ? Vu que l'intégralité du catalogue embarque maintenant une puce Apple Silicon.
Oui, c'est ce que tu faisais remarquer, c'est que maintenant, si on est à la grosse exception du Mac Pro, on a, dans la gamme Mac en tout cas, on n'a plus que des machines qui sont nées et qui ont été dessinées et conçues autour d'une puce Apple Silicon. Donc on peut se dire, Apple s'est dit, voilà, j'ai ce processeur, un de nos processeurs, on sait qu'il ne va pas consommer trop, on sait qu'il y a ceci, cela. Et on peut se permettre de faire ce design. C'est nous qui concevons, on n'est plus dépendant d'un processeur d'Intel. Et toutes les machines aujourd'hui ont été conçues avec cette philosophie. C'est maintenant, globalement, on peut faire un peu ce qu'on veut. À la grosse exception du Mac Pro, qui lui est le dernier vestige de l'ère Intel, parce que la première génération avait des Xeon. Ils sont passés ensuite au processeur M2. On pouvait se dire, voilà, ils ont abandonné le Xeon, ils ont mis du M2, ils ne se sont pas dit, on va tout refaire, on va repartir de zéro. C'est un peu comme ce qui s'était passé avec le premier MacBook Air et les Mac Mini, justement. Ils sont passés de l'Intel au puce Apple Silicon, les toutes premières, sans changer le design. C'était probablement plus simple. Et là, la question, ça peut être de se dire, ouais, tiens, le prochain Mac Pro, qui apparemment arriverait, donc avec des puces M4, arriverait... en 2025, mais assez tard en 2025. Est-ce qu'il va garder cette forme ? Parce que c'est aussi, même le design, c'est un peu un vestige de l'ère Jonathan Ive. Il est arrivé juste un peu après ou avant le départ du designer. J'ai toujours trouvé un peu clinquant, moi. C'est pas celui que j'aime le plus. Donc, est-ce que Apple va rester dans ce gros format, parce que c'est un Mac Pro qu'il faut mettre, voilà, il faut mettre beaucoup de choses dedans, ou est-ce qu'ils vont aller vers quelque chose de plus compact ? Mais il y a déjà le Mac Studio qui occupe cette place. Donc, il n'y a pas de rumeur comme quoi il va être abandonné. La bonne source de rumeurs, souvent chez Bloomberg, dit qu'il y a un renouvellement en même temps que le Mac Studio. Donc, il y aura toujours cette gamme. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ouais, c'est un petit peu la question.
Moi, je pense surtout qu'il y a une demande. C'est une machine qui a quand même qui vise un public très particulier, parce que bon.
Oui, puis il y a un rack,
ouais, voilà,
rack
mais
en plus, donc ils sont cassés la tête en faire une version un peu très particulière.
Mais je pense surtout que du coup, les gens qui ont besoin d'un Mac Pro, enfin, la seule raison qui nécessiterait d'acheter un Mac Pro maintenant, c'est qu'on a beaucoup de cartes d'extension à mettre dedans. Et donc, ils ne peuvent pas faire quelque chose de trop petit parce qu'il faut arriver à les mettre. Après, c'est sûr qu'ils pourraient faire quelque chose qui s'intègre mieux dans un rack, quitte à dire, OK, c'est pour le racker, donc on va faire quelque chose qui se rapproche plus d'un XRAV à l'époque ou qui prend moins de place. Mais ouais, les cartes, il faut arriver à les rentrer quand même.
Pierre, mis à part ce nouveau look, quelles sont les différences entre le Mac Mini M4 et les modèles précédents ?
On va d'abord parler un peu physique, la taille. La première, c'est qu'il y a des prises USB à l'avant et une prise jack. Alors, les prises USB à l'avant, c'est pratique. Il faut juste bien penser qu'elles ne transmettent que les données. Donc, on ne peut pas brancher un écran devant. C'est un peu bête, mais voilà, il faut le savoir. La prise jack, franchement, je suis dubitatif. Parce que, du coup, quand on met un casque filaire, et il y a de moins en moins de gens qui utilisent des casques filaires, C'est pratique d'avoir la prise devant. Mais quand on met des enceintes, du coup, on a un câble jack qui sont souvent plus des prises assez longues qui se plient mal, qui fait autour devant. Esthétiquement, c'est franchement pas très réussi. Et le Mac Mini, en fait, alors c'est meilleur que le précédent, mais c'est toujours très mauvais au niveau de l'audio. On peut vaguement écouter un podcast comme nous, parce que les voix sont à peu près reproduites proprement. Mais il n'y a pas de basse, c'est du mono, c'est vraiment très mauvais. Et c'est totalement doigt mouillé, mais j'ai tendance à penser qu'il y a plus de gens qui mettent des enceintes que de gens qui mettent un casque filaire sur un Mac Mini. J'en sais rien. Vous utilisez un casque filaire, vous ?
Non.
Non, non plus, ouais.
Ou peut-être Nicolas.
Oui, c'est
Nicolas,
ça.
Peut-être Nicolas Anthony.
J'allais dire Anthony, ouais.
Anthony, là, bon, il est sur du fil, sans fil, mais Nicolas, oui, c'est le genre.
Moi, j'utilise j'utilise des enceintes la majorité du temps. Le second truc, alors, c'est qu'il n'y a pas de prise USB de type A. Je ne suis pas du tout contre le changement. Je ne suis pas dans un trip, c'était mieux avant. Mais le problème, c'est que le Mac Mini, en fait, Apple livre pas de clavier et pas de souris avec. Les accessoires Apple coûtent plutôt cher. Hein. Quand on voit que voilà, le clavier le plus complet, il vaut... presque un tiers du prix du Mac, on se dit voilà, il y a un problème.
Et encore la version blanche, pas la version noire.
Voilà, si on veut le noir, c'est un peu plus cher encore. Et le problème, c'est qu'en fait, dans le monde PC, les fabricants d'accessoires sont pas du tout passés à l'USB-C. Donc les claviers, ils sont à 99% équipés de prises USB-A quand ils sont filaires. Même chose pour les souris. Et quand on a des souris sans fil qui sont pas Bluetooth, parce que ça arrive encore, le dongle, il est USB-A. Même quand on prend Logitech, qui est une marque qui fait des accessoires plutôt pensés pour les produits Apple souvent, les dongles, ils sont, enfin, l'unifying ou les bolts, ça n'existe pas en USB-C. Plus le fait que tous les produits USB-C que j'achète, dans la majorité des cas, la prise USB-C, elle est uniquement du côté de l'appareil. Et il met des câbles USB-C vers USB-A dans la boîte, et du coup, on ne peut pas le brancher, il faut un hub, et c'est casse-pied.
Ouais.
Le troisième point, après, on en parlera un peu plus en détail, mais du coup, on a une puce M4 qui est très bien dans la version de base, et une variante M4 Pro qui est très très bien. Alors, c'est pas nouveau, on avait déjà le cas avec le Mac Mini M2, qui existait aussi en M2 Pro, mais il était assez mal placé du point de vue rapport qualité-prix, parce qu'un Mac Mini M2 Pro bien équipé, c'était le même prix qu'un Mac Studio qui avait la puce au-dessus. Donc, vu qu'il faisait à peu près la même taille, donc c'était pas particulièrement intéressant. On peut noter qu'on a du Thunderbolt 5 sur la version M4 Pro. Alors, Thunderbolt 5, sur le papier, c'est génial, ça va deux fois plus vite, voire trois fois. Dans la pratique, pour le moment, il n'y a rien, en fait. Donc, on ne peut rien acheter de compatible. Il y a OWC qui a annoncé un SSD externe qui, normalement, est disponible. On devrait le recevoir en test. Mais ça permet de faire du 6 à 7 gigas secondes au lieu de 3 à 3,5 dans le meilleur des cas. Mais c'est pas vraiment un critère d'achat parce qu'il y a vraiment très peu de choses compatibles. Comme pour les MacBook Pro, voilà ce qu'il disait Florian, on a plus de RAM à la base, donc on a 16 gigas de RAM au minimum, et ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, le stockage reste assez faible. On est toujours à 256 gigas sur la version de base. Ce qui est franchement faible en 2024, ça fait. Voilà. Ce serait bien qu'il passe quand même à 512 gigas au minimum, voire en fait à 1 tera. Idéalement, il devrait mettre 1 tera, parce qu'un SSD correct de 1 tera, ça vaut pas 100€ en vrai, donc ils sont un peu bloquants. Mais pour le reste, il n'y a pas de Wi-Fi 7, c'est étonnamment, parce qu'on en a eu dans les iPhones. Bon, c'est du Wi-Fi 6E, ça marche. J'ai pas vraiment pu le tester parce que j'ai pas de routeur Wi-Fi 6E chez moi. Mais de ce que j'ai vu avec les tests des MacBook Pro, ça fonctionne correctement. Et surtout, un problème que j'ai avec le Mac Mini M1, c'est qu'on a beaucoup de périphériques Bluetooth, ça marche assez mal. Et j'ai pas vraiment eu le problème avec le M4. J'ai pas nécessairement testé assez pour être catégorique, mais je me retrouve pas avec une souris qui marche pas, quoi.
Ok. Florian, t'as utilisé les nouveaux MacBook Pro pendant presque 2 semaines. Alors le design n'a pas bougé, mais il y a quand même ce nouvel écran nano texturé. C'est quelque chose de vraiment intéressant selon toi ? Est-ce que toi t'en prendras un, par exemple ?
Le principal problème, c'est qu'il faut le voir soi-même, donc il faut aller dans une boutique et puis qu'ils aient les deux versions, le vert normal et le vert nanotexturé. Déjà, il faut rappeler que c'est pas tout à fait nouveau chez Apple. Ils avaient commencé à en mettre sur le Pro Display XDR, c'est-à-dire leur gros écran externe qui coûte super cher, en 2019. Et ils en avaient mis ensuite l'année suivante, et ça j'avais complètement oublié, sur un iMac 27 pouces. Ouais. C'était une option à 625€, donc ça douillait quand même pas mal. Et puis ça a été mis après sur l'écran Studio Display, l'iPad Pro plus récemment, et là on l'a cette année donc sur les iMac M4, et en option, alors c'est une option aussi sur l'iMac M4, mais aussi en option sur tous les MacBook Pro. Donc le point positif, c'est que c'est pas une option qui est sur les portables qui est super super chère, elle est à 170€. C'est pas rien, mais c'est quelque chose qu'on peut se dire tiens, pourquoi pas. Et c'est réservé justement à tous les MacBook Pro, c'est pas uniquement pour les 16 ou ceux qui ont le processeur ceci cela. Donc ça c'est plutôt bien. Ce qu'il faut voir, c'est que ça va pas supprimer les reflets, mais ça agit considérablement dessus. Quand par exemple nous sur les plafonds chez MacG, on a des néons carrés de bonne taille, donc sur les écrans habituels, ça fait vraiment des pavés blancs bien dessinés, voilà, on les voit sans problème. Sur un nano texturé, ce carré blanc, il est complètement explosé, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, vous voyez une tache un peu lumineuse, mais très diffuse, donc on voit, il y a toujours une présence, mais il y a plus ce pavé blanc dans l'image. Sachant quand même que quand on travaille sur son écran, on a tendance à porter ses yeux sur des zones de l'écran comme ça, et on voit pas forcément tous ces reflets. C'est lorsqu'on regarde l'écran dans sa globalité, on se dit ah oui tiens, je me vois dans l'image, je vois les éclairages et tout. Donc on s'y habitue. Je veux dire, ça fait des années qu'on a ces écrans, on a fini par s'y habituer. Reste que quand on passe sur le nano texturé, on se dit ouais, c'est quand même pas mal. Disons qu'il y a un truc dans la tête qui se fait, c'est qu'on tout paraît un peu assez homogène, tout paraît d'un seul ton. On se dit pas tiens, il y a des petites taches, des petits trucs comme ça. Et on avait mis les deux portables, donc sans nano texture et avec la nano texture côte à côte, avec exactement la même image. On faisait des play pause comme ça, vraiment calé. Il fallait quand même chercher la différence au niveau de la restitution, que ce soit des couleurs, des contrastes ou autre. Il y a une différence, mais elle est pas, c'est pas quelque chose, vous dites pas, ah ouais, nanotexturé à gauche, pas nanotexturé à droite. On le voit très bien quand ils sont éteints, on le voit dans d'autres circonstances, mais quand vraiment il y a des images, quand on regarde des films, Netflix ou des photos ou autre, c'est quand même pas mal fait du tout. Donc c'est pour ça qu'on se dit, tiens, pourquoi pas prendre cette option ? Peut-être, alors ça, je n'ai pas pu le vérifier, mais peut-être qu'un photographe lui dira « Non, mais attends, moi, je vois que je n'ai pas ma couleur comme je l'aimerais. » Ou le vidéaste qui veut... Mais voilà, là, on entre quand même dans des cas plus particuliers, mais auxquels s'adressent ces machines. Mais disons que voilà, il y a plutôt un joli travail qui a été fait pour que ça soit presque... Enfin, que ça soit le même rendu, quelque part, qu'un écran brillant, sans les désagréments du brillant. Ce qu'on n'a pas pu vérifier, parce que ça c'est quelque chose qu'Apple met en avant, c'est de travailler en plein soleil, parce qu'il n'y en a pas eu de soleil. C'est ce qu'ils mettent un peu dans leur argumentaire, c'est de dire bah, ces portables qui sont par nature amenés à être emmenés un peu partout, où on ne contrôle pas les sources de lumière, et a fortiori quand on travaille dehors, là vous allez pouvoir travailler beaucoup plus facilement, beaucoup plus confortablement. On n'a eu que des nuages et un seul temps, donc mais disons qu'on avait quand même des éclairages assez forts dans le bureau, et on voyait quand même, moi je l'ai aussi essayé chez moi, j'ai des lampes à droite à gauche, on les voit pas trop, quoi. C'est plutôt agréable. Et toi qui avais essayé, Félix, la nanotexture sur l'iPad,
ouais.
Il n'y avait pas la même impression. On sent que ça s'est amélioré, disons.
Oui, ouais, je crois que ce n'est pas le même procédé. Et sur le MacBook Pro, c'est beaucoup plus réussi. Et l'autre avantage, c'est surtout que tu ne touches pas souvent l'écran de ton MacBook Pro, là où tu touches souvent l'écran de l'iPad.
Oui.
Ce genre de truc, ça garde beaucoup les traces de doigts. Et sur l'iPad, je trouvais ça assez énervant, en fait, parce que ta tablette donnait l'impression d'être sale assez rapidement. Là, sur le MacBook Pro, du coup, il y a moins cet effet-là. Les traces partent mieux. Donc, il y a moins de traces, plus elles s'effacent mieux. C'est quand même pas mal.
Et le fait que ça, on le voit maintenant un peu sur des iPads, des Macs, des options pas très très chères mais offertes partout, c'est presque à se demander si c'est pas quelque chose qui petit à petit va être généralisé, de là à ce que ça devienne le choix par défaut, je sais pas, mais qu'on revienne à des écrans mat. Alors faut peut-être qu'ils perfectionnent encore un petit peu mais ils ont l'air d'être un peu dans cette tendance, c'est-à-dire, tiens, on fait un peu mieux, on fait une nanotexture un peu mieux, jusqu'à ce que peut-être on ait plus d'écrans brillants, et que ça soit qu'on ait des écrans qui prennent pas les reflets et qui ont une belle image.
Non, je vais me poser une question quand même, parce que je suis certain que les lecteurs se la posent aussi, est-ce qu'il y a une chiffonnette avec le modèle nanotexturé, vu que c'est apparu avec le XDR?
Bonne. Oui.
Oui, oui, oui.
Non, j'ai un gros doute parce que je les ai remballés.
Ah, si, si. Parce que...
Et je vois pas où est la chiffonnette.
Alors, tu l'as peut-être oublié.
Tant que je l'ai pas oublié. Non, non, mais après, ça doit être dans la petite boîte et je les ai pas toutes ouvertes. Mais je me rappelle en avoir vu une.
Oui, oui, si,
mais je crois que voilà, on en a sorti qu'une seule, effectivement.
J'ai
et les
fait
autres.
Le test, j'étais mettre mon gros doigt sur l'écran et je l'ai passé avec la chiffonnette Apple et ça partait bien. Donc, oui, il y avait une chiffonnette.
Voilà, j'ai eu un doute là. J'ai dit, qu'est-ce que sont devenues les chiffonnettes?
L'un des gros arguments pour ces nouveaux Mac est l'arrivée d'une nouvelle génération de puces. Pierre, la QVM4 marque-t-elle une vraie différence par rapport au M3, vu qu'elle a été présentée quelques mois à peine après le M3 et tout d'abord lancée sur un iPad Pro, on aurait pu se dire que c'était une évolution assez mineure.
C'est pas du tout le cas en fait, c'est probablement la plus grosse avancée depuis les puces M1.
Ouais.
D'abord. Sont vraiment plein de choses. Il y a des nouvelles instructions pour accélérer certains traitements. Il y a des gros gains sur la mémoire. Parce que du coup, Apple a mis de la mémoire plus rapide. Donc, on a, par exemple, par rapport à M1, on a de la mémoire. Avant, c'était vers 70 gigasecondes sur M1. Maintenant, on est à 120. Et ouais, ça va beaucoup plus vite. Donc, ça aide dans certains cas. On a des parties processeurs plus rapides avec plus de cœurs. On a des parties carte graphique plus rapides avec plus de cœurs. On a du ray tracing qui était déjà apparu avec le M3. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été améliorées. C'est surtout la puce M4 Pro, en fait, qui est beaucoup mieux. Parce qu'elle se cale bien entre la puce M4 classique et la puce M4 Max, ce qui n'était pas du tout le cas de la puce M3 Pro. Voilà. L'année dernière, en fait, quand Apple est sortie, la puce M3 Pro, c'était très bizarre parce que la M3 Pro, comparativement, elle est moins bien que la M2 Pro, sur plein de points. Ils avaient rapproché ça de la M3 normale. Et du coup, l'écart avec la puce M3 Max était assez grand. Et donc, c'était sûrement pour pousser aussi les gens à aller vers le gros modèle. Ici, ils ont déplacé un peu le taquet. Donc, on se rapproche de la M4 Max. Et du coup, on a quelque chose de vraiment bien. Qui est beaucoup plus équilibré. Et qui, voilà, on ne peut pas dire, oulala, c'est bridé, ils ont enlevé les trucs. Donc là, c'est plutôt une bonne idée. C'est surtout qu'ils ont ajouté en fait deux modes intéressants. Le premier, c'est un mode basse consommation, où le Mac Mini il est bloqué sur une fréquence faible et une consommation fixée pour le processeur qui est très faible, et du coup, c'est impossible à entendre. Le ventilateur tourne, mais à part à mettre son oreille sur la sortie, elle est en dessous sur le Mac Mini M4, on ne l'entend pas. Alors, ça va moins vite que forcément qu'en mode automatique, mais ça va plus vite qu'un Mac Mini M1. Et ça consomme vraiment, vraiment rien du tout. Donc c'est plutôt pas mal si on a besoin d'un ordinateur vraiment, voilà, qu'on n'a pas de gros besoins, qu'on veut quelque chose qu'on n'entendra jamais, qui est totalement discret, c'est parfait. Et on peut simplement passer en mode automatique quand on a besoin de puissance. Et sur les puces M4 Pro et Max, il y a un mode performance. Alors il était déjà disponible sur quelques MacBook Pro à une époque, sur les gros modèles. En fait, Apple débride simplement la limite de consommation. Donc, elle est vers 50 watts en temps normal. Elle est débloquée à 65. Et du coup, ça permet de gagner un peu en performance quand on lance des choses très très lourdes. Sauf que ça débloque aussi le ventilateur, qui tourne beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est un vrai calvaire, en fait. Enfin, vraiment, ma femme était dans la pièce à côté, elle m'a demandé ce qui tournait.
Ah oui, tant que ça.
Ah oui, non, c'est, quand il est à fond, c'est insupportable. Enfin, vraiment, moi, je dirais, c'est très bien, ça va plus vite. Si vous avez une tâche qui a besoin de beaucoup de temps de calcul, vous pouvez le faire, mais il faut quitter la pièce, quoi. Même avec un casque à réduction de bruit, on l'entend.
Mais est-ce que c'est un bruit dérangeant ou c'est un bruit
Ah non, c'est un bruit de ventilateur qui tourne à 5 mètres tour minute. C'est très fort, ça s'approche d'un petit aspirateur. Hein. C'est,
ah oui, d'accord.
C'est vraiment très fort. Hein. Ça va un peu plus vite, mais on sent que là, en fait, le boîtier du Mac Mini est trop petit pour dissiper ça, bêtement. Vraiment, on est...
Bah, c'était un peu ça sur le MacBook Pro 14, voilà. Avec le M4 Max, où bah, à un moment, sur certaines tâches, tous les 3 M4, M4 Pro, M4 Max avaient leur ventilateur qui tournait, parce que le test était le même sur les 3. Mais le M4 Max, le 14 pouces, c'était vraiment une soufflerie, mais au point que on a une clim dans la pièce, c'est pas une grosse pièce, puis c'est une pièce qui résonne un peu, mais on a une clim, c'était du même niveau, quoi. C'est quand le truc se coupe, quand les deux ventilos du MacBook Pro se coupent, ça fait ouf, on a un blanc d'un coup au niveau sonore. Mais ouais, c'est vraiment très fort dans ce cas-là.
Mais je pense vraiment que du coup, ouais, c'est un mode qui sera intéressant dans un Mac Studio où il y a un peu plus de place et où, beaucoup plus gros dissipateur. Et encore plus dans un Mac Pro où vraiment il y a ce qu'il faut pour refroidir avec des gros ventilateurs. Mais ce qui est étonnant après, c'est que, voilà, je dis la valeur de consommation, 65 watts, c'est très faible en fait. Donc si on prend un simple processeur de PC de bureau, l'entrée de gamme, elle est à 65 watts, quoi. Et c'est vraiment des trucs légers. Et ici, ici, c'est quand il est à fond qu'on lance des applications qui utilisent la carte graphique et des applications qui utilisent le processeur. Parce que si on lance qu'une des deux, on n'atteint pas la limite, parce que ça consomme moins, même à fond. Mais voilà, pour ceux qui font vraiment du calcul sur un Mac mini, qui ne me paraît pas être une cible particulièrement courante,
oui.
C'est un plus, mais le reste du temps, je pense qu'il faut le couper. Le seul problème, c'est, je m'en suis rendu compte après, j'ai vu certaines personnes qui le notaient, c'est que le mode jeu de macOS active visiblement ce mode-là automatiquement.
Ah, ouf, ouais.
Donc il y a des jeux où ça risque de souffler
Pour pas grand-chose.
Pas grand-chose, parce qu'en fait, ça marche très bien sans.
Oui, c'est ça, parce que tu joues à un jeu 2D, il n'a pas besoin de souffler longtemps.
Et c'est un peu le seul défaut que je trouve vraiment sur le Mac Mini M4 par rapport au Mac Mini M1. Parce qu'ici, le Mac Mini M1, en 4 ans, je dois l'avoir entendu souffler deux fois. Parce que, dans le meilleur des cas, c'est pas une puce qui consomme vraiment beaucoup. Et donc, et y a de la place dans le boîtier. Parce que c'était prévu pour des Mac Mini Intel à la base, et donc c'est très bien refroidi. Alors qu'ici, du coup, quand il est à fond, on l'entend.
Et tu peux changer de mode rapidement dans macOS, ou faut passer par les réglages?
Non, il y a un bouton dans le centre de contrôle qui apparaît quand on l'active.
Oh, bah ça va alors.
Donc ça se change assez rapidement. Mais c'est vrai que du coup, le Mac Mini M1 est comparativement plus silencieux sur la durée.
Ouais. On a beaucoup parlé des machines Apple et c'est vrai que c'est celle qui nous intéresse le plus, mais il ne faudrait pas oublier la concurrence. Microsoft met l'accent sur ses PC Copilot par exemple. Pierre, fin 2024, on en est où au niveau de la concurrence?
On est assez loin en fait, parce que alors dans les puces ARM, parce que maintenant il y a des processeurs ARM comme ceux d'Apple dans les PC. On a testé un début de l'automne. Ça s'appelle Snapdragon X Elite. Alors, il y a des versions Pro et Plus, mais voilà, c'est la nouvelle puce de Qualcomm qui était censée être un M1 killer, comme ils disent, 4 ans plus tard. Bon, en vrai, on est plutôt au niveau du M2 Pro. C'est pas mal.
Ouais.
Mais la partie graphique est vraiment très mauvaise. Du coup, les jeux tournent vraiment très très mal, beaucoup moins bien, par exemple, que sur un Mac Mini M1. Il y a beaucoup de bugs, en fait, surtout... Parce que ça, c'est un problème que tu connais peut-être avec les jeux PC, Félix, c'est que tous les logiciels anti-triche de jeux récents et tout ce qui est DRM ont besoin d'un processeur Intel. Ils ne marchent pas sur les processeurs ARM, donc il y a une partie des jeux qui ne se lancent même pas. Et quand ils se lancent, souvent, il y a des bugs graphiques où c'est très lent. Celui qu'on a testé, qui est un Asus VivoBook OLED, c'est une machine qui a un bel écran, qui a une autonomie correcte. On s'attendait vraiment à plus du 18-19 heures comme ils annoncent. En vrai, j'ai eu 12 heures en regardant Netflix en boucle, ce qui est bien par rapport à un PC standard, mais c'est pas non plus extraordinaire. Un MacBook Air fait le double, presque. Ouais. Et puis surtout, Windows 11 pour ARM a vraiment encore des soucis de compatibilité. Il y a quand même pas mal d'applications qui sont pas du tout compilées. Il n'y a pas de jeu ARM, rien. L'équivalent de Rosetta est actif pratiquement en permanence. Et puis, si vous êtes de ces gens qui appriment beaucoup, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de pilote d'imprimante. Il y en a vraiment très peu, il n'y a personne qui en fait. Et comme les ordinateurs ne se vendent pas beaucoup, les fabricants d'imprimantes ne passent pas leur temps à gérer ça. Après, il n'y a pas que ARM dans la vie. En fait, il y a Intel qui est sorti une nouvelle série qui s'appelle Lunar Lake. C'est les Core Ultra, je ne sais plus le numéro exact. En fait, pour une fois, ils ont fait graver les puces par TSMC, comme Apple, plutôt que les graver eux-mêmes. Et du coup, en fait, ça montre que Intel sait faire des processeurs, les concevoir, mais ils ne savent pas les graver. Voilà, ils ont un gros problème là-dessus, parce que du coup, l'autonomie, elle est vraiment énorme, elle est du niveau d'un MacBook Air, alors que c'est une puce X86, comme on pourrait avoir peur, mais non, pas du tout. C'est vraiment lié à la gravure. En partie, en tout cas en grande partie. Le seul problème, c'est que du coup, c'est des ordinateurs qui ont une autonomie, c'est des ultra-portables avec une autonomie extrêmement élevée. mais du coup des performances qui sont quand même plutôt faibles, quoi, parce que c'est, ils ont quand même dû limiter un peu les performances. Donc c'est pas pour des ordinateurs portables de joueurs, c'est vraiment pour des gens qui ont besoin d'un ultra portable qui a très longtemps dans la journée et qui fait le boulot.
Ok. Florian, certains de nos lecteurs sont peut-être tiraillés entre un MacBook Air M3 et un MacBook Pro M4. Faut dire qu'actuellement, la config standard du MacBook Pro avec sa Giga 512 de stockage, elle est que 370€ plus cher qu'un MacBook Air équivalent, donc lui qui a une puce M3. Est-ce que ça vaut le coup de casser la tirelire pour passer sur ce modèle, sachant que la puce M4 apporte quand même de bonnes améliorations ?
La première chose, c'est que ce MacBook Pro M4, il est revenu un peu dans la partie, justement, dans ce genre de dilemme. Parce qu'avant, du fait qu'il n'avait pas assez de RAM, on pouvait se dire, ouais, bon, si je veux vraiment un MacBook Pro, je veux aller dans cette famille-là, vaut mieux que je prenne le modèle qui est un peu au-dessus, donc tout de suite, c'est beaucoup plus cher. Là, il y a un peu cette tentation. Le choix de base, j'ai envie de dire, c'est le MacBook Air. Le MacBook Air, c'est une machine qui est bien à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est un peu la valeur sûre. Ouais. Elle est rapide pour ce pour quoi on en a besoin, ce type de machine, elle est très largement suffisante, elle y a une super autonomie et elle est compacte, elle n'est pas compacte, mais elle est très légère, elle est fine, donc c'est le bon portable par excellence. Après, on peut se dire, alors, on se plaignait jusqu'à présent que sur le MacBook Air, en entrée de gamme, il n'y a que 8 Go de RAM. Là, ils ont mis 16, bravo, mais ils ont laissé les 256. Donc voilà, c'est un autre front qui reste un peu ouvert. Donc si on veut comparer vraiment un MacBook Air 13 pouces, on va partir sur celui-ci, et le MacBook Pro 14, il faudrait déjà remettre le MacBook Air au même niveau du SSD, c'est-à-dire 512. Donc dans les deux cas, on a 16-512 des deux côés. Ça coûte 1500€ pour le MacBook Air, 1900€ pour le MacBook Pro. 1500-1900, il y a quand même 400€ de différence. On a quoi pour 400€ en plus ? On a quand même pas mal de choses. Donc RAM et SSD, c'est pareil. On a un processeur M4 qui est quand même nettement plus rapide, mais ça changera peut-être pas grand chose au quotidien si on fait du web, un peu de retouche, gérer ses photos, etc. On a un écran qui est quand même plus lumineux, un écran qui est un peu plus spacieux. On a l'option ProMotion, comme sur les téléphones, qui permet d'avoir un défilement plus fluide. Je vais pas dire que c'est quelque chose d'essentiel, il y a des gens qui sont très sensibles à ça, moi un petit peu moins, mais voilà, on a ça en plus. On peut brancher deux écrans à l'extérieur, en externe, en plus de l'écran du portable, alors que sur MacBook Air, on peut en avoir qu'un seul actif comme ça. Ou alors, il en faut deux, mais il faut fermer l'écran du MacBook Air. On a aussi la nouvelle caméra où il y a les fonctions cadre centré, la fonction qui permet aussi de voir ce qu'on fait avec ses mains avec FaceTime. Et puis, le port HDMI, le lecteur de carte SD et la petite option du noir sidéral. Donc, pour 400€, on a quand même beaucoup de choses en plus. Ça reste une somme, mais ça fait quand même une belle machine. Après, il faut quand même se poser la question. On peut être tenté, du coup, au vu de tout ça, si on a le budget, de se dire, je prends un MacBook Pro, et puis voilà. Mais est-ce qu'on a besoin du lecteur de carte SD ? Est-ce qu'on a besoin d'un troisième port USB ? Est-ce qu'on a besoin d'un port HDMI ? Ça, c'est HDMI et lecteur de carte SD, ça peut être des trucs dont on a absolument pas besoin. Donc on paye pour des choses qui sont quelque part qui vont être constamment inutiles. Donc voilà, c'est plus une question de budget. J'ai envie de dire, le MacBook Air et MacBook Pro, c'est vraiment deux choix très différents qui sont motivés un petit peu, qui vont être faits en fonction de ce dont on a comme budget. Là où c'est plus compliqué, c'est pour ceux qui se disent, tiens, un MacBook Air 15 pouces. Parce que là, c'est déjà beaucoup plus cher. Et au niveau du prix, on est quand même beaucoup plus proche que du MacBook Pro. Là, le MacBook Air 15 pouces, je trouve qu'il prend un petit peu, il prend un petit coup quand même, avec cette nouvelle concurrence.
Après, il y a une chose quand même que tu mets pas en avant, et pourtant, c'est la semaine. C'est qu'il y a pas, il y a rarement des promotions, des grosses promotions sur les MacBook Pro. Donc tu vas pas aller.
Je voulais le dire et j'ai oublié effectivement. Voilà. C'est-à-dire que là, on compare des prix d'Apple. Et sachant qu'effectivement, toutes les gammes, toutes les générations M2, M3 et maintenant M4 de MacBook Air sont souvent des promotions, alors que c'est quand même beaucoup plus compliqué sur les MacBook Pro M4, voilà. A fortiori sur ou alors des fois, Amazon fait des trucs, mais c'est sur des configurations délirantes. Ouais, donc c'est même pas la peine, ils font ça sur les iPad Pro aussi. Donc voilà, il y a...
Parce que c'est 1000€ en fait. Aujourd'hui, j'ai vu un MacBook Air, alors un M2, avec 16 Go de RAM, c'est 1000€. et le ouais. M3 avec 16Go de RAM, mais toujours 256Go de stockage, malheureusement. C'est ouais. 1100. Donc c'est quand même nettement moins que ce que propose Apple. Et puis, bah, ouais, voilà, oui. Ici, c'est parce que c'est la semaine où il y a beaucoup de promotions. Mais même le reste du temps, c'est quand même assez régulier que ce soit un ordinateur qui soit beaucoup plus souvent en promotion.
Oui, et ça fait une. Et même un M2, aujourd'hui, un MacBook Air M2, pour peu qu'on mette 16Go de RAM et 512, moi je trouve que c'est ça fait quelque chose d'assez équilibré. Un MacBook Air M2 comme ça, c'est tout à fait dans le coup. Mmh. Que ce soit pour un étudiant ou quelqu'un qui veut un portable un peu à tout faire, mmh. Ça marche très bien. Effectivement, ouais, il y a des promos qui rendent ça assez attractif. Donc le MacBook Pro. Ouais, super intéressant cette année, mais il faut vraiment avoir ce qu'il a en plus, il faut vraiment que ça se justifie dans ses besoins au quotidien. Mmh. Ils disent, ouais, non, j'ai besoin de ces connectiques en plus, promotion, mes yeux ne peuvent pas faire sans. Ouais. Il y a, voilà, c'est tout ce genre de choses. Et puis, il faut presque 2000 euros, c'est quand même pas mal,
oui,
2000
ouais.
euros.
Oh, oui. Enfin, il ne faudrait pas oublier l'iMac, Stéphane s'est chargé du test et décrit une nouvelle version sans grosse surprise. Pierre, qu'est-ce que cette machine a gagné cette année ? Est-ce que c'est une machine qui t'intéresserait, toi ?
Alors, ce qu'elle a gagné, c'est un processeur plus rapide, c'est un M4, alors dans une version assez bizarrement qui est moins rapide que sur le Mac Mini, parce qu'elle a moins de cœur. On a une webcam cadre centrée qui est capable de nous suivre, ça aussi c'est un truc qu'ils mettent dans pas mal de Mac maintenant, et c'est pas mal. On a l'option dont on parlait pour un écran nanotexturé sans reflet. Donc il y a pas mal de choses, et les couleurs visiblement, moi je ne les ai pas vues en vrai, mais de ce qu'explique Stéphane et quand on voit les photos comparatives, les couleurs sont beaucoup plus saturées que sur les précédents, donc on était vraiment sur des versions assez pastel et assez claires, et ici on est sur des couleurs beaucoup plus fortes.
Mmh. Surtout à l'arrière quand même. Ouais. C'est pas ce qu'on voit le plus souvent, c'est dommage.
Voilà.
Mais ouais.
Le problème après, c'est que bon, l'iMac, c'est pas du tout pour moi. D'abord parce que l'écran est trop petit. Hein. Enfin, voilà. Un écran de 24 pouces en 2024, honnêtement, c'est pas possible. Moi, j'ai des écrans de 27 pouces depuis 10 ans. C'est bien pour une machine d'appoint, pour avoir un écran, pour brancher des choses, mais le reste du temps, je trouve ça trop petit. Mmh. Ensuite, je trouve que du coup, il est moins bien équipé qu'un Mac Mini. Voilà, il n'y a pas de puce M4 Pro, la puce M4 de base est moins rapide, il n'y a pas d'Ethernet en standard, et puis bah, surtout c'est super cher. Quoi. Enfin, un iMac de base c'est 800 euros de plus qu'un Mac Mini. Et bah, les principales différences, là du fait qu'il est moins puissant, c'est on a un bel écran, petit mais beau, et un clavier et une souris. Bon, franchement, les 800 euros, ils peuvent partir dans un moniteur et dans des bons accessoires. Après, ça dépend ce qu'on veut. Je pense que pour les gens qui achètent des iMac, honnêtement, ça fait un peu cliché, mais je pense que c'est des agences de presse, c'est des trucs de graphistes, c'est des choses où l'ordinateur doit être montré parce qu'il est joli. C'est très bien, mais je suis pas certain que ce soit vraiment un ordinateur pour beaucoup de gens, quoi, parce que...
Ou tu le vois dans des écoles, des fois, un parc d'ordinateurs qui, je pense, tu peux pas enlever la webcam, tu peux pas enlever des trucs, enfin, c'est le côté tout en un par excellence, ou si tu veux emmener quelque chose, ben t'emmènes l'iMac, et puis voilà, quoi, mais voilà, ça t'emmène pas des petits bouts.
Ouais, voilà, donc c'est très joli, mais je trouve toujours, et depuis la version M1, que c'est un peu vain, quoi. Alors voilà, d'un point de vue visuel, honnêtement, c'est vrai que c'est vraiment très classe sur le bureau, mais moi, c'est vraiment des choses qui me passent pas. Il y aurait au minimum un 27 avec quelque chose d'un peu punch dedans.
Mais c'est surtout qu'on a eu longtemps l'habitude du 27. Maintenant, c'est pas une machine qui est venue comme ça un an et puis qui est repartie. Moi, j'en utilise un aussi à la maison. Et le 24, moi, ça me rappelle les iMac blancs.
Ouais.
Donc c'est quand même super vieux, et à l'époque c'était une belle surface, mais aujourd'hui 24 pouces effectivement, sauf si tu te dis ouais, je me sers de mon iMac une fois tous les deux jours un peu pour relever le mail, faire deux trois petits trucs, mais je reste pas 3 heures devant à chaque fois.
Mais tu veux pas lui mettre 1700 euros pour ça.
Mais voilà, c'est que tu te dis la machine elle 24 pouces c'est quand même pas ça va, c'est quand même pas petit. Mais rapporté au prix, tu te dis mince. Je me casse pas la tête à choisir un écran, quel bon écran pour mon Mac Mini, parce qu'il y a aussi ça. Tu t'épargnes cette recherche. Mais voilà, un écran relativement petit pour un prix qui n'est pas trop.
Il faudrait voir les iMac à main peut-être sur le Reform. Je ne sais pas s'ils sont chers.
Je ne sais pas. Mais le problème de l'écran, c'est que de toute façon, quelqu'un qui va chercher un écran pour un Mac mini ou même pour le brancher à son MacBook Pro, enfin, personne ne va aller chercher un écran de 24 pouces. Il faut vraiment avoir un bureau très petit pour se dire « je veux du 24 pouces ». Et de toute façon, sur le marché, il n'y a plus grand-chose. À une époque, il y avait quelques ultra-fines de chez LG encore dans ce format-là, mais ça a plus ou moins disparu. Du coup, les écrans 24 pouces, c'est des écrans 1080p d'entrée de gamme avec des dalles de mauvaise qualité. C'est l'écran qu'on va payer 100 euros parce qu'on a vraiment besoin. Voilà, on veut quelque chose, mais c'est tout. Si au moins Apple vendait son écran tout seul, pourquoi pas? Mais là, c'est super joli.
Là, ça te fait penser à un super portable, en fait. Ouais. C'est comme si on disait, c'est comme un portable avec un écran un peu XXL par rapport au portable classique, mais on est plus proche d'un gros portable que d'un monobloc comme on les avait eu avec les 27, qui sont...
C'est ce qui est expliqué Anthony, non, d'ailleurs.
Confortable.
Je crois qu'il est déplacé chez lui.
Oui, bah lui, il travaille, pour l'instant, il est dans sa phase iMac 24 pouces, il est très content. Et il fait le même travail que nous, donc pour lui, moi je pourrais pas bosser comme il bosse lui, parce qu'il a vraiment que cet iMac, mais... Ou alors il faut travailler autrement, je sais pas, c'est... Mais voilà, ça fait un peu petit, effectivement, 24 pouces aujourd'hui.
L'année 2024 d'Apple semble terminée. Florian, qu'est-ce qu'on attend maintenant côté sortie ?
Ça a l'air d'être pas mal quand même en 2025 aussi, où dans l'ordre, il y aurait l'iPhone SE, il n'y aura peut-être pas grand-chose de nouveau au niveau de son design. Enfin, il va beaucoup évoluer par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais apparemment, c'est une sorte d'iPhone 13 ou d'iPhone 14, donc on ne va pas trouver quelque chose de fondamentalement nouveau à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y aurait le fameux modem d'Apple, ce qui en plus est un élément crucial à tous les points de vue, mais... puis qui va être forcément comparé à ce que fait Qualcomm, c'est-à-dire à ce qu'au niveau de la vitesse, au niveau de la consommation, au niveau de la chauffe, etc., qu'est-ce que ça va donner. Il y a des petits trucs, un truc qui, moi, m'intéresse, c'est les AirPods Pro 3. C'est un peu un des produits vedettes d'Apple, qui arriverait peut-être au début, je crois que c'était Gurman qui disait qu'il laissait entendre début d'année, mais ce qui peut être en février, comme ça peut être au mois d'avril. Et puis, il y aurait cet écran, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, cet écran de domotique, où Apple suivrait l'exemple d'Amazon et de Google, en ayant un écran qu'on met dans son salon, dans sa cuisine, ou qu'on fixe à un mur, et qui permet un peu de piloter sa domotique, d'utiliser FaceTime, d'envoyer des messages, d'écouter de la musique, etc. Une sorte de écran de contrôle de la maison. Donc ça serait assez intéressant à voir, parce que pour le coup, ils n'ont rien. On a vu un peu des fonctions apparaître un petit peu comme ça, à droite à gauche, dans des produits. On se dit, tiens, c'est cadre centré, ça peut servir à ça, parce qu'on va... forcément tourner autour de cet écran pour du FaceTime. Le mode en veille sur les iPhones, on se dit, tiens, ça peut être aussi quelque chose qui est utilisé pour ce genre de choses. Donc voilà, il y a un peu comme ça des pièces de puzzle qui apparaissaient un petit peu, mais on va peut-être voir le puzzle pour de bon. Et puis plus tard dans l'année, au printemps, apparemment c'était les MacBook Air M4, et puis suivi, alors là c'était plutôt assez tard dans l'année, au début du second semestre, normalement je crois, Mac Studio et Mac Pro, où il n'y avait pas beaucoup d'infos, à part le fait qu'ils utiliseraient forcément les dernières puces. Mais donc au moins, ça, c'était les gros rendez-vous
De l'année.
Et puis après, il y a, pour nous, Français, puis d'autres pays, évidemment, l'arrivée d'Apple Intelligence en avril, où là, on va pouvoir faire plein de trucs intelligents. Donc là, on a déjà un avant-goût parce qu'on peut l'essayer déjà en bricolant un petit peu, mais ça sera une fonction standard maintenant en français qu'on pourra utiliser.
Non, puis c'est bien, ça va arriver, ça sera un peu plus développé. Enfin là, tu vois, les Américains sur la 18.1, ils ont un peu de fonctionnalité, ils doivent attendre la 18.2, 18.3, 18.4.
Voilà, nous on aura un peu la compile, quoi.
On aura le package complet.
Voilà, on aura le package.
Sympa.
Et de voir, on verra ce que ça donne. J'espère que quand tu taperas « dessine-moi une main » sans autre indication, il fera bien une main avec 5 doigts et pas avec 6 doigts comme il t'a fait. Donc il y a encore quelques mois pour peaufiner ça.
Ce que j'attends aussi, c'est la même chose que toi, c'est tout ce qui est lié à la santé sur les AirPods.
Oui.
Parce que du coup, j'ai profité des promotions pour acheté des Pro 2, mais j'attends de voir un peu ce que ça a donné, les aides auditives et tout ce qu'ils ont annoncé, parce qu'il y a des choses sympathiques.
Mais, oui, c'est ce qui est intéressant, c'est que les AirPods, au début, c'est vraiment né comme le produit, les pubs montraient les AirPods qui se connectent facilement, que vous oubliez dans les oreilles, et puis vous êtes dans votre bulle, et puis super. Et puis après, ça s'améliore au niveau du son. Et puis là, il y a une sorte de... pas un virage qui est pris, mais ils axent à fond sur le côté santé. Et le côté audio passe presque au second plan. Le côté audio, quand je veux dire écoute de la musique, passe presque au second plan et ça devient ces produits sont bons pour votre santé. C'est un peu comme certains aliments. C'est le bifidus. Mangez ça parce que ça va être bon pour votre santé.
Un peu comme les nôtres.
Donc là, c'est les AirPods. Prenez-les, ça sera bon pour vos oreilles, au point qu'ils ont enlevé... par défaut, quand on veut désactiver toutes les fonctions de traitement sonore, ben avant on pouvait le faire facilement, là il faut réactiver l'option qui permet d'avoir le bouton et de le désactiver. Ouais. Donc c'est par défaut, on traite le son, on atténue, on réduit. Donc ça c'est intéressant, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'Apple Watch, où maintenant c'est plus un produit... c'est parce qu'on produit les AirPods, on va les trouver en pharmacie quoi, un jour.
Remboursé par la sécu.
Ouais.
Eh bien, merci à vous deux pour ces retours sur cette toute nouvelle gamme. Vous pouvez dès à présent retrouver nos tests détaillés du Mac Mini, des MacBook Pro et de l'iMac M4 sur Mac Génération. Florian, merci d'être passé, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Pierre, à plus tard.
Bonne journée.
Et nous, on se dit à la prochaine pour un futur podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.